En ce début d'octobre 1940, Benito Mussolini est d'humeur morose. Lui, qui rêvait de gloire en entrant en guerre au mois de juin, ne peut se satisfaire de la conquête du Somaliland britannique et de la trop brève avancée en Égypte du maréchal Graziani, lequel, après avoir atteint Sidi Barani à une centaine de kilomètres de la frontière, a préféré arrêter son offensive et faire retrancher son armée dans les fortins disséminés à une quinzaine de kilomètres, comme je vous l'ai raconté dans l'épisode 9. Le Duce est jaloux des succès allemands qui s'enchaînent depuis un an. Et surtout, il s'agace de l'attitude d'Hitler à son égard. En effet, il n'existe entre l'Allemagne et l'Italie aucune coordination de leurs projets militaires. Et Mussolini veut prouver à son allié que son pays peut aussi mener ses propres conquêtes territoriales. Le 12 octobre 1940, il déclare à son gendre, le ministre des Affaires étrangères Galeazzo Ciano, je cite, « Hitler me met toujours devant le fait accompli. Cette fois-ci, je vais lui rendre la monnaie de sa pièce. Il apprendra que j'ai occupé la Grèce par les journaux. Ainsi, l'équilibre sera rétabli. » Ainsi en a décidé Mussolini. La Grèce doit faire partie de la sphère d'influence italienne et son invasion sera une promenade militaire. En effet, que pourrait peser ce pays de 7 millions d'habitants face à 45 millions d'Italiens? Le pays est pauvre. Un tiers de sa population est analphabète. Son produit national brut est 9 fois inférieur à celui de la Grande-Bretagne. La tuberculose et la malaria y sont des maladies endémiques. Si les Grecs vivent depuis 1936 sous un régime fascisant, avec à sa tête le général Ioannis Metaxas, qui a mis fin à plus de 13 années d'instabilité politique, leur pays est économiquement dépendant de la Grande-Bretagne, qui détient 70% de sa dette. Les relations entre les deux pays sont plutôt bonnes, surtout depuis que le 13 avril 1939, la Grande-Bretagne s'est portée garante de l'indépendance de la Grèce. Pour les Britanniques, en effet, l'île de Crète est, avec l'île de Malte, une défense naturelle pour la route des Indes via l'Égypte et le canal de Suez, et elle ne doit pas tomber entre des mains ennemies. La Bulgarie, qui a des visées sur la Thrace et la Macédoine, a d'abord été pour la Grèce le voisin le plus dangereux, amenant le général Metaxas à faire construire à la frontière avec ce pays une ligne fortifiée portant son nom, inspirée de la ligne Maginot. Mais l'impérialisme affiché de l'Italie fasciste a fait de ce pays l'ennemi principal, surtout depuis qu'elle a occupé l'Albanie voisine. Mussolini a fixé au 28 octobre 1940 le début de l'invasion de la Grèce. Le 19, il écrit une lettre à Hitler faisant allusion à une action dans ce pays, mais en restant volontairement vague quant à la forme et à la date d'une telle action. En outre, il n'enverra cette lettre que le 22 octobre, au moment où Hitler est en route pour rencontrer le général Franco à Hendaye. Le dictateur allemand n'en prendra connaissance que le 24, après sa rencontre à Montoire avec le maréchal Pétain. Hitler craint une aventure militaire de Mussolini dans le Balkan, alors qu'il a tout intérêt à y maintenir le statu quo. Il s'empresse donc de proposer à son complice une rencontre à Florence le 28 octobre pour tenter de le dissuader de se lancer dans une guerre contre la Grèce. Mais c'est un Mussolini rayonnant qui, prenant Hitler de vitesse, l'accueille le 28 en lui annonçant, je cite, « Führer, nous sommes en marche. À l'aube, nos troupes ont franchi la frontière gréco-albanaise. » Et devant la mine passablement dubitative de son interlocuteur, il ajoute « Ne vous inquiétez pas, tout sera fini dans 15 jours. » En effet, le 28 octobre 1940 au petit matin, avant même la fin de l'ultimatum que son ambassadeur vient de présenter au Premier ministre grec, l'Italie a commencé l'invasion de la Grèce depuis l'Albanie. Dans un premier temps, l'offensive italienne commandée par le général Prasca semble être un succès. Les Italiens franchissent le fleuve Kalamas et progressent en direction de Ioannina. Le port d'Igoumenitsa, face à Corfou, est occupé le 6 novembre. Mais les conditions météorologiques deviennent de plus en plus exécrables. Et le général Prasca doit suspendre son offensive le 8 novembre, au grand dam de Mussolini, qui le limoge le lendemain pour le remplacer par le général Sodou, sommé de reprendre l'offensive. Mais ce qu'ignorent alors les Italiens, c'est que l'armée grecque, consciente de son infériorité numérique, leur a tendu un piège en les laissant s'engager dans les défilés du massif du Pinde avant de lancer une contre-attaque le 14 novembre en prenant les Italiens de revers. En quelques jours, les troupes italiennes sont chassées de Grèce. Mais les Grecs ne s'arrêtent pas à la frontière. Sur leur lancée, ils pénètrent en Albanie. Korytsa tombe le 22 novembre. Pogradec et Argyrocastro le 4 décembre. Himare le 24. Et Kelsire le 10 janvier 1941. C'est alors près du quart du territoire albanais qui était ainsi conquis par les Grecs. Le général Sodou sera à son tour limogé et remplacé le 29 décembre par le général Cavallero. Mussolini est découragé. Et il se confie ainsi à Ciano. Je cite, il n'y a plus rien à faire. C'est absurde et grotesque, mais c'est ainsi. Il faut demander un armistice par l'intermédiaire de Hitler. Heureusement pour le Duce, l'hiver est arrivé. La température peut chuter jusqu'à moins 20 degrés sur les hauteurs de l'Albanie. Et les combattants, épuisés de part et d'autre, sont contraints de se retrancher momentanément sur leur position. Dès le début de l'invasion, le gouvernement grec a sollicité l'aide de la Grande-Bretagne et Churchill ne peut pas faire autrement que de venir en aide à un pays dont la résistance à l'envahisseur italien a enthousiasmé l'opinion publique britannique. Cependant, les Britanniques ne disposent pas de gros moyens et en novembre 1940, ils ne peuvent envoyer que 5 escadrilles de la Royal Air Force et quelques troupes en Crète. Toutefois, la présence britannique en Grèce ne peut laisser Hitler indifférent, car ces escadrilles de la Royal Air Force sont une menace potentielle pour les puits de pétrole roumains de Ploiești, qui sont vitaux pour l'Allemagne. En outre, les déboires de son allié italien ont déstabilisé la situation dans les Balkans, alors que l'Allemagne a besoin d'être assurée sur ses arrières en Europe au moment où elle prépare son invasion de l'Union soviétique. Aussi, dès le mois de novembre 1940, l'état-major allemand travaille sur un plan d'intervention en Grèce, via la Roumanie et la Bulgarie, pour sécuriser son front sud. Ce sera l'opération Marita, ordonnée par la directive numéro 20 du 13 décembre 1940. Entre-temps, les Britanniques accroissent leur présence en Grèce, décidant le 22 février 1941 de l'envoi de 58 000 hommes que Churchill est toutefois obligé de prélever sur les troupes qui se battent en Libye, comme je vous l'ai relaté à l'épisode 9. Mais sans attendre l'intervention allemande, Mussolini décide à la fin de l'hiver de lancer une nouvelle offensive le 9 mars 1941. Elle échoue au bout d'une semaine à peine, au prix de 12 000 morts. Désormais, le Duce doit passer la main aux Allemands. Or, bien que victorieuse, l'armée grecque est épuisée. En outre, elle est massée en Albanie et elle est hors d'état de résister longtemps à une offensive allemande qui viendrait de Bulgarie. Pays qui a d'ailleurs rejoint le 1er mars 1941 les forces de l'Axe en adhérant au pacte tripartite. Les forces britanniques, quant à elles, sont davantage équipées pour la guerre dans le désert que pour les routes montagneuses de Grèce. Elles manquent de chars et de canons anti-aériens, et leur ravitaillement est gêné par la faible capacité des ports grecs. Si la frontière avec la Bulgarie est protégée par les fortins de la ligne Metaxas, en revanche, celle avec la Yougoslavie n'est que faiblement défendue, car les deux pays ont de bons rapports. Depuis l'assassinat du roi Alexandre Ier à Marseille en 1934, la Yougoslavie est dirigée par le prince Paul, en qualité de régent, le nouveau souverain Pierre II étant encore mineur. Or, le 25 mars 1941, sous la pression de Hitler, le prince Paul signe à son tour l'adhésion de la Yougoslavie au pacte tripartite pour permettre le passage des troupes allemandes vers la Grèce. Cette décision, qui heurte violemment le patriotisme des Yougoslaves, suscite des manifestations anti-allemandes dans tout le pays. Et le 27 mars, un coup d'État mené par des militaires anglophiles renverse le régent, sans effusion de sang, pour placer au pouvoir le jeune roi, alors âgé de 17 ans, et pour dénoncer le pacte tripartite. La réaction de Hitler est extrêmement violente. Il est décidé à écraser la Yougoslavie sans délai, et il donne immédiatement l'ordre d'envahir le pays à partir de la Bulgarie, tandis que les Italiens attaquent depuis l'Albanie, et que Roumains et Bulgares apportent leur appui logistique. À partir du 6 avril, sans aucune déclaration de guerre, l'aviation allemande bombarde par surprise la capitale Belgrade pendant 3 jours, faisant 17 000 victimes civiles. C'est l'opération Châtiment. Skopje est occupé le 7 avril, Prilep le 8, Zagreb le 10 et Belgrade le 13 avril. La Yougoslavie n'a même pas eu le temps d'achever sa mobilisation et ses troupes manquent d'équipements modernes. Le 17 avril 1941, l'armée yougoslave est contrainte à la capitulation tandis que son roi a fui en exil, comme les souverains de Norvège et des Pays-Bas l'année précédente. Les pertes allemandes sont insignifiantes. La Hongrie et la Bulgarie se sont jointes à la curée finale et, comme la Tchécoslovaquie et la Pologne en 1939, la Yougoslavie est démembrée. La Croatie devient un État indépendant totalement inféodé à l'Allemagne. La Serbie est occupée par l'Allemagne. Hongrie, Bulgarie et Italie se partagent les dépouilles de ce pays qui a cessé d'exister. La Grèce, à son tour, est attaquée dès le 6 avril à partir de la Bulgarie. Les Grecs veulent organiser leur défense à l'abri de la ligne Metaxas afin de protéger le port de Thessalonique, aujourd'hui Salonique. Mais cette ligne fortifiée ne couvre que la frontière avec la Bulgarie et elle peut être prise à revers en cas d'attaque depuis la Yougoslavie. Or, son invasion de la Yougoslavie permet aux Allemands de pénétrer en Grèce par 2 défilés, celui de Manastir et celui de la vallée du Vardar. Thessalonique est ainsi conquise sans combat dès le 9 avril. Les forteresses de la ligne Metaxas ont été contournées comme l'a été la ligne Maginot l'année précédente. La seconde armée grecque est contrainte à capituler sans condition. Les Allemands s'enfoncent rapidement en Grèce et le général Henry Wilson, qui commande les forces britanniques et du Commonwealth en Grèce, doit ordonner la retraite de ses troupes. Les combats font rage et les Néo-Zélandais vont renouveler à 2400 années de distance l'exploit des 300 soldats spartiates et de leur roi Léonidas Ier en défendant pendant 3 jours, du 19 au 23 avril, le célèbre défilé des Thermopyles, ultime défense de la capitale, Athènes. Sur le front d'Albanie, les Grecs de la première armée sont très réticents à devoir se replier devant les Italiens. Mais ils sont pris à revers par les Allemands qui, après d'intenses combats, ont pris la ville de Ioannina le 19 avril, contraignant le général grec Tsolokaglou à offrir sa reddition le 20 avril aux Allemands. Mais en aucun cas les Grecs ne veulent se rendre aux Italiens. Aussi, furieux, Mussolini ordonne alors une contre-attaque qui est néanmoins repoussée. Et c'est Hitler qui imposera aux Grecs la participation de l'Italie à un nouvel armistice le 23 avril. La bravoure et le courage des soldats grecs ont impressionné Allemands et Italiens, qui les autorisent à retourner dans leur foyer plutôt que d'être faits prisonniers, tandis que les officiers sont autorisés à conserver leurs armes de poing. Poursuivant leur avance, les Allemands traversent l'isthme de Corinthe pour pénétrer dans le Péloponnèse en prenant le port de Patras, dans le but de couper la retraite des Britanniques. Heureusement pour ceux-ci, l'attaque allemande est trop tardive pour empêcher les Alliés d'évacuer leurs forces à partir du port de Kalamata. La capitale, Athènes, ne peut plus être défendue. Et le 23 avril, le roi George II doit partir se réfugier en Crète avec son gouvernement, tandis que les Athéniens se confinent chez eux dans l'attente de l'arrivée des Allemands. La capitale tombe le 27 avril et le drapeau à croix gammée flotte désormais sur l'acropole. Les Allemands vont également, à partir du 16 avril, occuper les îles de la mer Égée afin de sécuriser la côte. Thasos, Samothrace, Limnos, Mytilène, Chios sont ainsi conquises sans grande difficulté. Grâce à une importante flotte mise à leur disposition, ce sont plus de 43 000 hommes des forces grecques et du Commonwealth qui parviennent à évacuer vers la Crète et l'Égypte entre le 24 et le 28 avril, laissant néanmoins 8 000 prisonniers aux mains des Allemands. Les combats en Grèce continentale prennent fin le 28 avril 1941 avec la chute de Kalamata. Le pays sera divisé en trois zones d'occupation, allemande, italienne et bulgare. Les Allemands ont conquis les Balkans en moins d'un mois. Mais la Crète demeure encore aux mains des Anglo-Saxons. Cette île présente une importance stratégique de premier plan, car la Cyrénaïque n'est qu'à 300 km. Et les puits de pétrole de Ploesti en Roumanie, à 600 km. Aussi Hitler, par sa directive numéro 28 du 25 avril 1941, ordonne-t-il l'invasion de la Crète. Ce sera l'opération Mercure. L'île est mal protégée. Les deux tiers des quelques 30 000 soldats britanniques et du Commonwealth sont des rescapés de la guerre et, comme les 14 000 Grecs, ils sont désorganisés, mal équipés, ne disposant pas de défense anti-aérienne alors que la Luftwaffe a la maîtrise de l'air. Cependant, la Royal Navy contrôle la Méditerranée, ce qui exclut tout débarquement sur l'île par la mer. L'invasion devra se faire par les airs. Ce sera la première opération entièrement aéroportée de la guerre. Pas moins de 25 000 hommes, sous le commandement du général Kurt Student, seront ainsi parachutés ou transportés en planeur sur l'île. La bataille de Crète commence le matin du 20 mai 1941, avec pour objectif la capture des trois aérodromes de l'île à Malème, Héraklion et Rétimnon pour permettre l'atterrissage de renforts transportés par la Luftwaffe. Mais l'effet de surprise ne jouera pas, car grâce à Ultra, les Britanniques décodent les communications allemandes et connaissent ainsi le jour et les lieux de l'invasion allemande. Les troupes britanniques et néo-zélandaises attendent en effet les parachutistes allemands et leur causent de lourdes pertes. Que ce soit à Héraklion, Rétimnon ou Malème, aucun des objectifs initiaux des Allemands ne sont atteints. Les combats font rage pendant plusieurs jours. Et malgré de lourdes pertes, les Allemands parviennent néanmoins à débarquer de plus en plus de chasseurs alpins, faisant progressivement basculer le rapport des forces, d'autant plus que sur mer, les navires britanniques chargés d'acheminer des renforts sont durement touchés par la Luftwaffe et doivent rebrousser chemin. À partir du 27 mai, les Britanniques doivent se replier vers le sud de l'île, alors que les Allemands ont pris la ville de la Canée. Les troupes britanniques évacuent par mer depuis le petit port de Sfakia entre le 30 mai et le 1er juin 1941. Le roi George II doit à son tour prendre le chemin de l'exil. les Britanniques ont pu évacuer 15 000 hommes. Mais ils ont dû laisser 11 800 prisonniers et ont eu 1 700 tués. Les pertes maritimes sont lourdes. 3 croiseurs et 6 destroyers coulés. Un porte-avions, 3 cuirassés, 6 croiseurs et 9 destroyers endommagés. Les Allemands ont gagné la campagne de Crète, mais à quel prix ? 6 000 hommes ont perdu la vie, dont 1 520 parachutistes, auxquels il faut ajouter les 1 502 disparus et les 1 500 blessés. Le général Student dira que la Crète a été, je cite, « le tombeau du parachutiste allemand ». Les pertes matérielles de la Luftwaffe sont également importantes. 52 chasseurs, 18 Stuka, 26 bombardiers, 4 avions de reconnaissance, mais surtout plus de 100 avions de transport Junker 52. Devant le coût humain et matériel de cette opération, Hitler n'ordonnera plus jamais de nouvelles opérations aéroportées. Les parachutistes de Student ne sauteront jamais sur Malte, Chypre ou au Moyen-Orient. Quel bilan tirer de ces combats dans les Balkans ? Hitler avait prévu d'attaquer l'Union soviétique à partir du 15 mai 1941. L'invasion de la Grèce, pour venir en aide aux Italiens, retardera d'un mois ses projets. Et pour certains, ce délai a été fatal aux forces de l'Axe, dont l'attaque sur Moscou et le Caucase a été brisée par l'hiver russe. Mais pour d'autres historiens, même si elle avait été lancée dès le 15 mai 1941, l'opération Barbarossa n'en aurait pas moins été un échec. Mais ceci est une autre histoire.